Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin. Passez une belle matinée, un bon petit déjeuner. Nous sommes là pour vous accompagner. J'espère que vous avez ouvert votre calendrier de l'Avent. La première date, hein, pas les 24 d'un coup, évidemment, faites très attention, faites durer un petit peu le plaisir. Nous sommes le 1er décembre et nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Le choc ce soir entre l'OM et Monaco, ce sera notre premier débat. Enjeu, vous le savez, la place de dauphin du Paris Saint-Germain. Les Marseillais qui retrouvent leurs supporters pour la première fois depuis 3 semaines. Le Vélodrome est-il un problème? Ce sera notre 1-10h, le dossier des GG autour du monoxyde de carbone dans le vélo. L'inhalation de ce gaz qui fait des adeptes dans le peloton. Le cyclisme court-il un grand danger? Et puis 11h, direction Madrid où même la presse espagnole veut sauver Kylian Mbappé après une semaine encore compliquée. L'international français vous fait-il de la peine? Ce sera notre question de 11h. D'autres débats évidemment. On parlera notamment de Mathieu Jalibert qui est sorti du silence pour le plus grand plaisir de Christophe Cessieux qui nous en parle depuis des semaines. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente. Ah, bah oui, il est là, forcément. Une grande gueule qui, comme le Vélodrome, c'est pas toujours un atout pour son équipe. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Comment ça? Je suis pas toujours. Ah, je suis pas toujours un atout comme. D'accord, ok, j'avais pas compris. Ça va?
Ça va, Christophe. Ah, ça va, moi. Alors, est-ce que tu as ouvert le calendrier de l'Avent, là? Est-ce que tu as commencé?
Non, pas encore.
Non, t'en as un?
Avant le 20 avril, tu veux dire?
Oui, ouais. Non, je ne parle pas des 60 ans, je parle de... Il s'est passé quelque chose, il y aura Noël quand même avant.
Ouais. Non, je n'ai pas ouvert, je n'ai pas acheté encore.
Tu n'as pas acheté?
Je me fais, mes enfants me harcèlent pour l'acheter, et comme on est le 1er décembre...
Ouais. Et remarque, c'est une bonne stratégie pour que ça coûte moins cher.
Ah bon?
Ah bah si tu l'achètes le 2, le 3, le 4, ça coûte moins cher.
Ouais, non, mais si tu leur dis que tu as des cadeaux pendant 25 jours, je peux te dire que...
Oui.
Après, les 25 jours d'après...
Eh oui.
Ça va te coûter cher.
C'est compliqué et on embrasse évidemment
et le père. Il n'y a pas besoin du calendrier pour grignoter. Hein.
Ça. Il se fait lui-même son calendrier de l'avant. Une grande gueule qui, comme le Vélodrome, il est capable, tout seul comme un grand, de faire couler son équipe. Jérôme Pinault, salut Jérôme.
Tu la remets à chaque fois, ça le fait.
Salut. Comique de répétition.
Ça le fait rire.
Il ouvre une petite case, tous les. C'est un petit gâteau.
Tiens, il est en train de prendre son petit déjeuner, Christophe.
C'est quand même un mauvais rappel pour les nombreuses personnes qui m'en veulent à mort. Tu sais que tu les relances. Chaque semaine, je reçois après des messages après ça.
Oui, mais.
C'est pas très gentil. Tu vas répondre à ma place, tu vas voir. Tu vas y passer un moment. Hein.
C'est mon cadeau de Noël.
C'est sympa.
Tu es dans
c'est
cette
la
émission.
Case numéro 1.
Voilà, exactement. Vivement la deuxième. Hein. Ouais, t'as ton petit calendrier, toi?
Évidemment.
Ouais, ok. Chocolat ou autre chose? Parce que maintenant, on fait plein de choses avec les calendriers.
Traditionnel, chocolat. Ma fille Lou de 18 ans, ma fille Zoé de 15 ans, c'est chocolat. Ça
chocolat.
Quand on est à la maison, c'est chocolat.
Ravi de te retrouver, en tout cas, mon cher Jérôme.
Moi aussi.
Une grande gueule qui, comme le Vélodrome, il en a vu des chèvres. Hein. Pascal Duprat, salut Pascal.
Salut JC, salut les amis. Ouais, j'ai bien dormi, moi, cette nuit. J'ai trouvé un super somnifère. J'ai regardé Paris Saint-Germain.
Ah oui.
Donc j'ai dormi tôt.
Ah oui, oui, tu m'étonnes. Oui. Ah bah à 21h15, c'est déplié, j'imagine. On reparlera du Paris Saint-Germain dans cette émission et de ce match incroyable hier au Parc des Princes. Et puis une grande gueule qui, comme le Vélodrome, on n'aime pas quand il se met en colère. Marc Madiot, salut Marc.
Salut.
Même là, il est angoissant. C'est fou, hein. Ça va, Marc?
Très bien.
Oui. Alors toi, le calendrier de l'Avent dans la famille Madiot, ça se passe comment?
Me concernant, moi, jamais.
Jamais, ok.
Le fiston, oui.
Oui.
Oui, mais
c'est toi qui l'achètes ou c'est madame?
C'est madame.
C'est madame, ouais. Très bien.
Non, je n'ai jamais acheté de calendrier de l'avant.
Jamais, ok.
Jamais.
Dis donc, avec Madio Pinot ensemble, on peut faire une équipe cycliste, là, dis donc. Tu as pensé ça ou quoi?
Et en plus, avec toi comme commentateur, on est, bah ouais. On est servi. Hein.
Ouais, oui, on est pas mal.
Et Pascal, toi, comme c'est du Pascal,
c'est du haut niveau. Ça y est, tu m'attaques, c'est parti.
Pascal qui adore le vélo. Voilà, on est bien pour parler du monoxyde de carbone à 10h.
Ah,
vous avez beaucoup de choses à nous dire. Donc, ça va être parfait. Mais on va débuter, évidemment, avec l'Olympique de Marseille, mes chers GG. Et cette citation de Paulo Coelho qui a dit un jour: on ne peut se fier à un homme si l'on ne connaît pas la maison qu'il habite.
La une des grandes gueules du sport.
Toujours 2-0 pour Auxerre. Le crochet, la frappe. 3-0 3-0 3-0 Traoré qui régale. Oh la folie au Vélodrome. 1-2-3-0 pour les Auxerrois. C'est incroyable.
Pour certains, moi bien sûr c'est galvanisant, mais je peux comprendre aussi que pour certains c'est peut-être... beaucoup de pression et il faut essayer de surmonter ça.
L'objectif, c'est d'être performant tout le temps, que ce soit à l'extérieur ou au Vélodrome, devant nos supporters.
Trois semaines après le naufrage face à Auxerre, un mois après l'humiliation face au Paris Saint-Germain, l'OM retrouve ce soir le Vélodrome et ses supporters pour affronter Monaco. Deuxième du championnat, l'OM très séduisant à l'extérieur, mais qui affiche un visage morose à domicile. Avant dernière équipe de Ligue 1, avec seulement une victoire depuis le début de la saison. La musique qui fout les jetons. Et cette question, le Vélodrome est-il un problème? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Cette année, on a l'impression que ce soit le cas, effectivement.
Ok, c'est oui. Pascal Duprat.
Non.
C'est non. Jérôme Pinault.
Pour cette équipe-ci, oui.
Marc Madiot.
Un petit oui ponctuel.
Un petit oui ponctuel. Il y a des choses à dire dans ce débat, évidemment. Nous allons débattre dans quelques instants. On va retrouver tout de suite notre correspondant à Marseille, Florent Germain. Salut Florent.
Salut JC. Salut les GG. Salut à tous.
Ouais, c'est
salut
vrai que ces contre-performances au Vélodrome, ce blocage à domicile, ça embarrasse le staff marseillais et ça agace les supporters.
Oui, c'est même une grande contrariété, on peut le dire, pour Roberto De Zerbi, l'entraîneur marseillais. Après le dernier match perdu au Vélodrome contre Auxerre, il s'était emporté, vous vous en souvenez, en conférence de presse. Il avait surtout rappelé, j'ai ressorti le petit passage, être venu à Marseille pour une raison principale.
Per il Vélodrome. Per giocare al Vélodrome.
Pour jouer au Vélodrome. Il avait insisté pour gagner au Vélodrome et le faire vibrer. C'est vrai que Roberto De Zerbi ne pense qu'à ça. Il vit donc très très mal les contre-performances du moment à la maison. Ça agace aussi les supporters. J'en ai parlé avec Manitou, Guy de son prénom. Il a 66 ans de Vélodrome. C'est d'ailleurs l'un des supporters qui était à la création des fanatiques ou des ultras. Il a vu des ambiances bien plus hostiles, bien plus intimidantes à Marseille. Donc Guy ne comprend pas.
On fait plus de tifo, on encourage, on chante. Mais on voit qu'il y a une crainte quand même, je sais pas. Dans le temps d'avant aussi, le Vélodrome, c'était pas comme ça, mais l'impressionné aussi. Hein. Ils n'avaient pas même un terrain à se manquer. Hein. Il y avait des joueurs qui se sont fait poursuivre en voiture et tout. Hein. Avant, c'était chaud aussi. Hein. Moi, je pense qu'ils ont une crainte, je sais pas. Ils se sont pas encore libérés.
Alors, pour soigner le mental des troupes, il y a eu cette mise au vert cette semaine. Les joueurs sont partis en stage, ont évoqué ensemble ce blocage. Et écoutez, le milieu de terrain danois Pierre-Emile Højbjerg, il souhaite vraiment une réaction dès ce dimanche.
Je te promets, tous les joueurs, tout le staff, on veut leur faire plaisir. C'est une bonne chance de remontrer l'importance des spectateurs, du stade, du maillot, du club, pour nous les joueurs.
Roberto De Zerbi veut que son équipe affiche du caractère au Vélodrome, il l'a souvent répété. Il demande à ses joueurs de se lâcher et de ne plus être sur la retenue à la maison.
Je veux que mes joueurs se lâchent et se sentent libres. Je ne veux pas de petits soldats que je dirigerai depuis le banc avec une manette de PlayStation. Il faut apprivoiser ce Vélodrome à tout prix.
D'autant qu'il y a ce soir un vrai coup à jouer pour l'OM face à Monaco. En cas de victoire, Marseille sera deuxième de Ligue 1.
Merci beaucoup Florent Germain, on te retrouve ce soir évidemment en direct du Vélodrome à partir de 20h, coup d'envoi 20h45 pour Marseille-Monaco. Le Vélodrome est-il un problème? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio, on vous attend nombreux supporters marseillais pour débattre avec nous. C'est un oui Jérôme Pinault, pourquoi oui?
Oui, pour cette équipe-là, pourquoi? Parce que c'est depuis un moment, quand l'OM renouvelle énormément son effectif chaque année, et c'est le cas cette année, il y a un nouveau papa dans la maison, De Zerbi, il y a des nouveaux enfants à la maison, mais ils ne connaissent pas la maison. Cette maison-là est très bruyante, il y a beaucoup de monde et en plus on leur demande d'appliquer un certain jeu, de bien jouer, de jouer beau, de s'engager. Et ils ne se connaissent pas, les gars. Ils ne connaissent pas les murs. Tu es bien chez toi quand tu commences à y être depuis un moment. Tu connais tes invités, tu te mets à l'aise, tu mets les chaussons, tu commences à parler un peu plus haut. Là, on a affaire à des gars qui arrivent au Vélodrome, qui ne connaissent pas le Vélodrome. Ils veulent tous venir à Marseille parce qu'il y a la chaude ambiance, mais quelque part jouer dans ce stade, tu peux te caguer dessus aussi parce que c'est tellement puissant et ça fait du bruit. On te regarde et tu connais pas les gars à côté, tu connais pas le gars qui dirige et la maison tu la connais pas, les invités tu les connais pas. Donc tu peux perdre tes moyens. C'est ce que moi je dis aussi, pourquoi je dis cette équipe-là, elle est talentueuse à part Højbjerg et un mec comme Rabiot qui peut amener de la sérénité, c'est quand même beaucoup de jeunes joueurs. Greenwood a été inexistant face au Paris Saint-Germain, tellement on l'attendait. Il s'est caché sur le côté, il a joué avec les boules caisses, il s'est dit vivement que ça s'arrête. Et c'est des exemples qui font que le talent ne suffit pas quand on joue à l'OM. Il faut aussi une équipe. Cette équipe-là est en construction, une nouvelle fois en construction. C'est peut-être ça le problème. Et on attend mieux d'eux au Vélodrome. Mais est-ce que le Vélodrome n'attend pas trop finalement? Et quelque part, ça fait quand même quelques années que l'OM n'est plus souverain à domicile.
Ok, le Vélodrome attend trop, mais il n'y a qu'une victoire, Pascal Duprat.
L'année dernière, ils ont fini deuxième équipe à domicile.
Sur le début de saison, l'an dernier, Pascal, à cette époque-là, il y avait très peu de victoires à domicile. Sur l'ensemble du championnat.
t'amènes de l'eau à mon moulin parce que tu dis qu'ils méconnaissent la maison et qu'ils vont s'approprier les lieux. Donc ça tendrait à prouver qu'il est un peu tôt pour dire si l'OM aujourd'hui est en difficulté.
T'as écouté ma réponse ou tu dormais encore tout à l'heure?
Je dormais pas.
Non, pour le moment, ça c'est sûr.
Ah bah t'aurais dû dire oui alors. Non, pardon, comme moi, à ce moment-là. Parce que tu crois que ça peut arriver. Moi, je te dis que ça va arriver et qu'il est trop tôt pour le dire. 5 matchs seulement disputés au Vélodrome. Et si vous avez regardé les 5 matchs, je les ai regardés, croyez-moi, ils doivent en gagner davantage qu'un. Y compris contre Serres.
Il y en a un qui doit perdre contre Nice quand même. Contre Nice,
très très peu de choses, tout à fait. Tout à fait, mais toujours est-il que si Paris Saint-Germain, tu peux pas le compter parce qu'ils sont 10 très vite contre l'ogre du championnat. Donc là, tu peux pas le compter. Cependant, moi, j'avance une explication, elle est rationnelle. J'essaye d'être pas dans le domaine technique trop, malgré tout. Je trouve que De Zerbi, il les fait jouer trop haut. Il n'y a pas de sécurité défensive à la perte du ballon. Les transitions défensives, elles ne sont pas assurées. Toutes les équipes qui viennent à Marseille, il faut aussi se considérer que le public les galvanise également. De jouer au stade Vélodrome, c'est une date que l'on coche quand on est footballeur professionnel et qu'on joue dans un autre club que l'OM. C'est un endroit où on aime jouer parce que là, on est confronté à ce qui se fait de mieux en termes d'ambiance. Donc les équipes sont toujours motivées contre Marseille. Et il me semble que depuis le début de la saison, l'équipe marseillaise joue beaucoup mieux qu'elle ne jouait ces dernières saisons, à domicile, qu'elle maîtrise, mais malheureusement, elle n'est pas assez patiente. Donc elle se fait chaque fois trouer. Je pense que De Zerbi, ça, il l'a très vite analysé, il l'a compris. C'est pour ça que je me dis, il reste encore 12 matchs à disputer au stade Vélodrome et qu'il est bien trop précoce pour prétendre que Marseille ne va pas performer dans son stade. Ils ont les atouts pour performer dans leur stade, j'en suis certain. Et ça va peut-être venir dès ce soir. Monaco est certainement un client, mais c'est un match à appréhender correctement. Et si par bonheur Marseille venait à gagner contre Monaco, alors la messe serait peut-être différente dans les semaines à venir.
Il est poli, il lève le doigt, c'est Marc Madiot. J'ai l'impression que tu viens de convaincre Marc Madiot, Marc.
Mais je suis sur la même ligne, je pense qu'ils ont besoin d'un déclic. Et le meilleur déclic qui puisse se produire pour l'OM, c'est Monaco.
Okay, mais
c'est
si
le
ça
match
se passe
idéal.
Ok, mais si ça ne se passe pas ce soir, on pourra parler de problème ou pas ?
Ils ont besoin d'un déclic. Et le match contre Monaco est le match idéal pour relancer tout ça et faire oublier ce qui s'est passé avant. Marseille, c'est toujours très particulier, donc il faut peu de choses pour que ça parte dans le mauvais sens, mais il en faut également très peu pour que ça reparte dans la bonne direction. Donc moi, je suis plutôt confiant, je pense que le moment du déclic est arrivé avec Monaco.
Et pourtant, Christophe, on entend cet argument, mais on a entendu aussi un supporter marseillais, et beaucoup le disent. Pourtant, cette année, c'est calme. On est plutôt gentil avec l'équipe.
Mais c'est quand même Marseille.
Oui.
Il y a eu des années, calme.
Il y a eu des soirées très, très rudes pour les joueurs olympiens. Hein, quand les supporters descendaient à la commanderie pour faire le coup de poing, que les joueurs jouaient avec une pression terrible, ils ont réussi à s'en sortir. Non, mais je pense, moi, comme Pascal, que l'Olympique de Marseille, sa façon de jouer au Vélodrome l'expose à des contres, à vouloir toujours la possession de balle, jouer très haut, mais ils ne se replient pas très bien et leurs latéraux sont pas excellents. Et ils jouent pas du tout de la même manière quand ils jouent à l'extérieur. À l'extérieur, c'est quand même l'équipe numéro 1 en termes de classement. Ils sont premiers, ils sont devant Paris, ils sont devant tout le monde. Donc peut-être que pour arranger les choses, De Zerbi devrait changer sa manière de jouer au Vélodrome, histoire déjà de redonner un peu de confiance à son équipe et ensuite se remettre à gagner. Je pense que c'est vraiment un problème ponctuel parce que dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, le Vélodrome a toujours été un appui incroyable. Et au contraire,
vous êtes tous d'accord avec moi, en fait.
Mais oui, mais t'es notre maître, t'es un peu notre gourou.
Est-ce que vous pouvez m'envoyer les dernières phrases de Christophe à mon égard? Je suis son gourou. Est-ce que je pourrais recevoir ça en podcast?
Ouais, bien sûr, ce sera ton cadeau.
Mais t'avais pas entendu ce que j'avais dit au début. J'avais dit, c'est un problème en ce moment, mais c'est un problème qui peut se régler. Voilà.
C'est un problème ponctuel.
Il n'y a jamais de problème à Marseille. Il y a quand même un problème, Pascal.
Il y a un mot important, c'est que je pense également qu'entre le public marseillais, je vais me faire peut-être allumer par les spectateurs, les
supporters marseillais. Entre le public marseillais et l'équipe en ce moment, il n'y a pas assez de connexion. Parce que le public est trop impatient. Très vite, il murmure. Dès que ça ne va pas. Or, quand Marseille va commencer à tourner, alors les supporters sont inconditionnels.
Ça a été tout le temps.
Oui, de tout temps, mais c'est pour ça qu'ils ne sont pas, à mon avis, ils ne sont pas encore connectés. Ouais. Il manque pas grand-chose.
Les mecs se faisaient siffler au bout de 40 minutes quand même. Et la pression est autre.
Et fut un temps, il y avait aussi les équipes qui venaient jouer à l'OM avaient peur du public marseillais. Aujourd'hui,
bien
c'est plus
sûr,
le cas.
Voilà, c'est
mais j'étais aussi véhément contre l'adversaire aujourd'hui. C'est plus tellement le cas. On va en parler plus tard, mais
sûr, les supporters, jouer, ils sont sifflés, mais en fait, ils en
mettent. Mais c'est moins véhément qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, quand tu étais un joueur, tu allais jouer à Marseille, tu te dis qu'est-ce qui va nous arriver. Aujourd'hui, tu t'es dit pourvu qu'on les mette en difficulté pendant 15 minutes, parce que c'est eux qui vont prendre les ténèbres sur leur tronche et on va être plus à l'aise. Et c'est souvent ce qui se passe aujourd'hui. Vous parlez du match contre Monaco. Attention, Monaco, ils sortent d'une défaite un peu difficile à avaler en Champions League. Si ce soir, ça démarre mal et que Marseille s'incline encore face à Monaco, là, la foudre va commencer à tomber sur les Marseillais.
Et
ça peut durer un moment.
Paris.
Ça peut durer un moment.
Et il y a un deuxième rendez-vous, c'est Monaco.
Et ouais, il ne faut pas louper celui-là.
Il faut peu pour que le public et l'équipe fassent corps. Franchement,
ou l'inverse.
Il n'y a pas d'autre endroit aussi fanatique, aussi exceptionnel pour un joueur que Marseille. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez.
Il y avait Evian Tonon Gaillard à une époque.
The place to be pour le joueur de foot. Donc, ils vont trouver cette connexion entre le public et l'équipe. Et vous verrez que l'OM va gagner souvent à domicile, parce que le public va être vraiment le 12e.
Eh bien, on continue d'en parler dans quelques instants. Le Vélodrome est-il un problème? Est-ce que vous pensez, comme Pascal, la méthode Coué,
Duprat, coach de l'OM,
le
là,
gars,
je dirais
c'est
que ça, il va
te... Que j'aurais kiffé, je serais allé à pied.
Que tout va bien se passer, justement,
pied,
tu nous raconteras, Pascal, tes expériences au Vélodrome. Tu nous raconteras aussi ce que ça fait de jouer pour une équipe qui se rend au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille, évidemment. Tu nous raconteras un petit retour d'expérience, et puis on reviendra aussi sur la métaphore de notre ami Jérôme Pinot sur on ne connaît pas encore la maison. Est-ce que aussi c'est la faute de Pablo Longoria, la faute au changement perpétuel, donc les joueurs ne connaissent pas les lieux. Venez nous dire ce que vous en pensez, supporters marseillais. On vous attend dans quelques instants au 32-16. On revient dans une petite minute pour les grandes gueules du sport.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h28 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Pascal Duprat, Marc Madiot, Jérôme Pinot, Christophe Cessieux. Restez bien avec nous à partir de 9h40. On s'en fout pas. Beaucoup d'informations à vous donner, et notamment le Paris Saint-Germain, le triste match nul à domicile, un partout face à Nantes, ou encore le sport de retour à Valence, reportage à Valence un mois après la catastrophe. Ce sera donc le zapping des GG. Mais restons un instant sur notre débat depuis 9h ce matin. Le Vélodrome est-il un problème? Ce soir, l'OM affronte Monaco. C'est un véritable choc en Ligue 1. L'OM a l'occasion, en cas de victoire, de chipper cette deuxième place au Monégasque. Karim nous appelle au 32-16, supporter de l'OM. Bonjour Karim.
Bonjour l'équipe, bonjour à tous.
Le Vélodrome est-il un problème? C'est notre question, Karim. Tu répondrais quoi?
Moi, en tant que supporter de l'OM, j'aime autant vous dire que cette équipe, cette année, au Vélodrome, elles n'ont pas du tout les épaules. C'est une équipe qui est beaucoup trop jeune, à mon goût. Hein. Attention, à mon goût. Je trouve que c'est une équipe un peu trop jeune et qui n'a pas pris, qui ne connaît pas les réalités du Stade Vélodrome. Marseille, c'est pas à Paris. Marseille, c'est pas Bordeaux. Marseille, c'est pas Lyon. Marseille, c'est Marseille. Le Vélodrome, c'est le Vélodrome. Depuis le début de saison, entre nous, moi en tant que supporter de l'OM, j'ai l'impression qu'il me manque de respect. Là, ça va pas. J'aime autant vous dire que ce soir, s'ils gagnent ou pas, ça va être une crise, mais pas possible. Parce que c'est bien beau d'aller faire les beaux à Bollard. C'est bien beau de gagner 3-1 à Bollard. Mais si t'es capable de gagner à Bollard, pourquoi t'es pas capable de gagner au Vélodrome contre Monaco? C'est quoi ça? Ils font quoi ces mecs-là? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait qu'on vienne au Vélodrome avec simplement 20 000 supporters? Non mais sérieusement. Eh les gars, oh, 65 000 personnes chaque match au Vélodrome. Mais ça doit te booster. Tu dois être content, tu dois être fier de porter ce maillot. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ça fait quelques années, j'ai remarqué au Vélodrome, ça ne va pas du tout.
Non mais c'est intéressant ce que dit Karim, et Pascal, je te donne la main.
Karim
nous dit, en fait, il nous manque de respect, parce que c'est quoi? C'est nous le problème? C'est parce qu'on met trop d'ambiance?
Ça amène encore une fois de l'eau à mon moulin. Il n'y a pas de connexion encore.
Tu vas la chercher partout, la flotte à ton moulin.
Mais non, mais parce qu'en fait, dès que ça ne va pas, vous sifflez.
T'as un moulin hollandais, ton truc.
Les mecs, ça les crispe, ça n'a rien à voir avec la jeunesse. Tu ne veux pas me dire que le capitaine, le Danois.
Monsieur Duprat,
écoutez-moi, laissez-moi finir après vous prenez la parole. quand en fait la clé c'était Paris. Si l'OM gagne contre Paris, alors la connexion avec le public elle est exceptionnelle. Et là Marseille roule sur tout le monde à domicile. Là pour l'instant ils ont encore le frein à main. Il faut aussi les comprendre, c'est tout. C'est tout ce que je veux dire. Je respecte les supporters marseillais, mais je comprends aussi les joueurs et la crainte qu'ils ont face à l'événement.
Ok, Karim, ma réponse.
Monsieur Duprat, pardonnez-moi, vous êtes venu au Vélodrome. Vous avez oui. Même un jour fait une critique de fou quand nous, on est le supporter à l'OM, on est parti à Toulouse, il y a trop de supporters à l'OM, patati patata.
Oui, rappelez-vous de ça. À l'extérieur, bien sûr,
vous avez
Toulousain.
Vous avez entraîné Toulouse au Vélodrome, vous avez vu l'ambiance de fou. Comprenez-moi que quand les gamins, parce que c'est des gamins, parce que moi je suis désolé, quand je vois mon équipe, l'OM, à part Rabiot, à part Hojbjerg, voilà, c'est pratiquement que des gamins. Mais ça met une pression de dingue, c'est une pression de dingue. Et le Vélodrome, oui. C'est le Vélodrome. N'oublions pas que nous sommes la troisième équipe en Europe la plus forte à l'extérieur. Hein. N'oublions oui. pas que nous sommes la troisième équipe à l'extérieur d'Europe. Nous sommes l'avant-dernière équipe en France à domicile.
Oui, mais vous avez joué 5 matchs. Part. Non mais 5 matchs,
oui,
tous les autres ont joué
que
plus.
Même que 5 matchs. Écoutez, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts.
Alors comment voulez-vous qu'ils le soient aujourd'hui?
Même en résidence sur le banc, ça changerait rien. Ils sont pas prêts.
Regardez, vous me dites ils sont trop jeunes. Et si aujourd'hui ils perdent contre Monaco, ils seront trop jeunes encore. Et s'ils gagnent, ils sont trop vieux. Comment ça se passe? Vous me dites, on leur fait l'enfer s'ils gagnent pas aujourd'hui.
Ce que te dit Karim, c'est qu'ils le prennent pour eux. C'est-à-dire qu'ils voient une équipe flamboyante à l'extérieur et à domicile, ça se produit plus. Alors ils se disent, c'est peut-être nous le problème. Et ça, on peut comprendre
que c'est pas le problème.
Mais non, mais peut-être qu'eux se le disent. En fait, on met trop d'ambiance,
on est trop nombreux. En fait, en vérité, au lever de Rome, il faudrait faire un stade avec 20 000 places. Peut-être qu'ils vont bien jouer. C'est bien, c'est ça l'Olympique de Marseille.
Il y a Charletti qui va se libérer.
Faudrait parler plus doucement, crier doucement, quoi. Chanter avec deux octaves en dessous. Peut-être que ça les énerverait pas. Voilà, chuchoter, ça peut être sympa.
Cette semaine, j'ai entendu quelqu'un dire on va chuchoter au
Karim, après, tu as aussi le fait que cette équipe. Pour l'instant, il n'y a pas de joueurs emblématiques. Et ça fait un moment que ça dure, quelques années que ça dure maintenant. On s'attache aux gens. Et puis s'ils ne sont pas très sages à domicile, tant pis, ça fait longtemps qu'on le connaît. C'est le petit voisin, on l'a vu grandir. Mais là, il n'y a pas ça. Personne, il n'y a pas d'identification à cette équipe aujourd'hui. Et on passe que par l'amour entre le public.
Oui, mais ça, c'est un peu dans toutes les équipes pareilles.
Dans le foot moderne, un peu plus. À part dans certains clubs où tu arrives encore à discuter, regarde à Lens, dans certains clubs comme à Strasbourg, ils arrivent à se dire il y a des jeunes qui arrivent, qui montent. Mais c'est Marseille, là c'est le Vélodrome, c'est Marseille. Et si tu n'es pas identifié avec quelques joueurs sur le terrain, tu n'as plus qu'une chose à faire, c'est gagner tous les matchs, c'est les grands matchs. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc espérons qu'il y ait un déclic, mais si ce soir il n'y a pas cette victoire significative, et je suis d'accord avec toi, Pascal, qui réconcilierait tout le monde. Attention, danger, Karim l'a dit.
C'est pas l'adversaire le plus facile, quand même.
Non. Et en plus de cela, comme tu dis, Marc, il y a gagné et bien joué, parce que De Zerbi veut faire les deux au Vélodrome pour égaler les 65 000.
Ce soir, contre Monaco, un petit 1-0.
Ouais, il faut juste gagner.
Aujourd'hui, gagner, c'est important. Mais si tu prends l'exemple d'un joueur, Wahi, par exemple, qui est un joueur, un buteur.
Il est perdu.
Quand il va domestiquer le stade Vélodrome, ça va être l'idole. Il en a le potentiel. C'est pour ça que je dis, soyez pas trop hâtifs dans les jugements. Je parle de nous, ceux qui analysent en fait ce qui se passe au Vélodrome. Il n'y a que 5 matchs de disputés. Et parmi ces 5 matchs, l'ogre parisien malgré tout. À 10 contre 11. Donc soyons, patients, parce que j'ai l'impression que cette équipe, elle a le potentiel.
Je vous propose d'écouter Adrien Rabiot. C'était il y a quelques jours en conférence de presse, il parlait des difficultés au Vélodrome de son équipe.
On a quand même aussi pas mal de jeunes joueurs qui ne sont pas forcément aussi habitués à jouer dans un stade comme ça aussi, avec des supporters, même si c'est des supporters bien sûr qui nous poussent. Et pour certains, moi bien sûr c'est galvanisant, mais je peux comprendre aussi que pour certains c'est peut-être beaucoup de pression et il faut essayer de surmonter ça. Je ne pense pas que ce soit lié à un déficit technique ou de qualité de joueur. Pour certains, quand on aura maîtrisé ça, qu'on saura gérer tout ça, ça pourra aller mieux dans le jeu.
Karim, notre supporter marseillais qui nous a appelé ce matin, tu comprends ce que dit Adrien Rabiot ou pas ?
Évidemment, bah, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est simplement, on a une équipe un peu jeune, on a des joueurs un peu jeunes qui n'ont pas évolué dans des clubs qui font que, en termes d'ambiance, c'est comme ça. Marseille, c'est explosif. Marseille, c'est une bombe nucléaire. L'Olympique de Marseille, le Stade Vélodrome, c'est spécial.
Poudrière.
C'est l'une des plus belles ambiances du monde. Il faut dire, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est vrai. C'est comme ça. L'OM, c'est 65 000 supporters par match. On est le seul club en Europe, on fait partie des seuls clubs en Europe à avoir notre stade rempli tous les week-ends.
Alors, Karim, mais moi, ça, on l'entend, mais alors moi, j'ai une question. Parce que comment tu expliques que face à Auxerre, face au Paris Saint-Germain, à la pause, bah, le stade Vélodrome commence à être déserté?
Mais pour la simple et bonne raison qu'on est déçus.
Dépit amoureux.
Moi, je suis désolé. Encore à la limite. Écoutez, en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, allez, Paris, on va dire que bon, on s'est fait caca dessus, on s'est cagué dessus. Alors là, il n'y a pas de problème. Mais contre Auxerre, s'il vous plaît, contre Auxerre, 3-0 à la mi-temps. Mais sérieusement, ils nous ont pas manqué de respect, là, peut-être. Mais sérieusement, on est payé, on a un budget 10 fois plus important qu'Auxerre. On est une équipe plus importante.
Peut-être, mais ça répond pas à la question. Pourquoi certains partent?
Mais parce qu'on est écœuré, monsieur. Parce qu'on est
pieds amoureux.
Monsieur, moi je viens de Rouen, j'habite en Normandie à Rouen, ça m'arrive de faire des déplacements au Vélodrome, je fais des 1000 km pour aller voir mon club, et quand je fais des 1000 km et je repars la queue entre les jambes, et je suis choqué. Mais ma semaine elle est foutue, ça y est, ma semaine elle est foutue.
C'est ça le supporterisme, bravo. Ouais, sa semaine, elle est foutue.
Après, ça a toujours été dans l'histoire de ce club. Moi, j'ai été absolument fan quand j'étais gamin de l'OM et quand je jouais au foot d'un mec qui s'appelait Chris Waddle, et j'étais coiffé comme lui. Oui, Christophe, c'est sûr, j'ai eu les cheveux longs. Waddle, il a mis 6 mois.
J'en connais un sur Internet qui va se faire un plaisir de trouver.
Mais c'est pas grave, les gens sur Internet. mais Waddle était un immense joueur, un magicien. Il a mis 6 mois, 8 mois au Vélodrome à s'acclimater et à faire 2 passements de jambes alors qu'il maîtrisait tout ça à l'extérieur. Il mettait tout le monde à ses pieds à l'extérieur et au Vélodrome, il n'y arrivait pas. Il l'avait pris en grippe, ça a été très long. Et quand il raconte son histoire, il dit que à un moment donné, s'il ne vit pas chez Papin à cette époque-là, il pense à ne pas rester tellement c'était difficile à s'acclimater. Et ça a toujours été ça. Après, à cette époque-là, on a entendu ce matin un Eric Dimeco qui a aujourd'hui 100 ans. Il y avait des Marseillais, il y avait des mecs qui étaient là et qui arrivaient à parler avec le public et qui arrivaient à leur dire, les gars, prenez le temps, ce joueur est incroyable. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Encore moins depuis l'ère Longoria où les 3/4 de l'effectif change chaque année.
Pascal, raconte-nous un peu tes sorties au Stade Vélodrome.
Ben, en fait, quand les joueurs rentrent pour l'échauffement au stade Vélodrome, comme c'est partout le cas, partout en France, c'est comme ça. Normalement, l'équipe adverse se fait siffler. Mais là, c'est pas des sifflets.
Tu te
fais conspuer, huer. Après, quand t'es coach, t'arrives le long de la tribune, tu te fais pas insulter. C'est différent de certains publics. Je veux pas les nommer. Il y a des publics qui ne font que t'insulter. À Marseille, ils ne font que te chambrer. Ils te chambrent sur ton look, sur tes fringues.
Qu'est-ce qu'ils disaient sur toi? Ta dernière,
petit gros, ta gueule, le chauve. voilà.
C'est un peu de l'insulte, quoi.
Mais comment t'es fringué? Mais Pascal, comment t'es fringué aujourd'hui et tout ça? Enfin, bref. Non, mais il te déstabilise, mais c'est vraiment exceptionnel.
Là, tu regardes ce qu'il m'a. Tu dis, c'est vrai, j'aurais pas dû le faire comme ça.
Là où j'ai halluciné, c'est que c'était à l'extérieur pour eux, donc à Toulouse, quand j'entraînais Toulouse, derrière moi, la tribune d'honneur. Je me fais tenser par des supporters marseillais. Et là, je comprends pas. Je me dis, attends, mais là, les places, normalement, elles sont réservées. Mais en fait, même les supporters toulousains, ils tournent leur casaque à l'époque pour supporter Marseille, tellement ce club est mythique. On peut dire ce qu'on veut, il est mythique. Voilà.
Ok, mais est-ce que t'as senti quand même que si ça pouvait bien se passer pour toi à un moment donné, lorsque tu as joué au Vélodrome,
le public pouvait
vraiment se retourner. Et donc, le public qui.
Ça peut être contre-productif pour l'équipe marseillaise, à condition que l'équipe adverse prenne le match par le bon bout. C'est vrai que quand tu mènes au score au Vélodrome, bien, tu augmentes bien sûr tes chances de gagner par le score, par ta prise d'avantage au score, mais aussi parce que l'équipe marseillaise, elle a tendance à se liquéfier tellement elle subit une pression énorme du public. Ça, c'est sûr que ça peut être une arme à double tranchant. Mais quand le public et l'équipe fait corps, personne ne peut résister à Marseille, je suis vraiment désolé. S'il y a bien un endroit où on peut renverser les scores, c'est bien en faveur de l'équipe domestique, c'est bien au stade Vélodrome. Le public a une action incroyable sur les joueurs quand les deux font corps.
Ok, voilà, donc ça, il faut
on n'en est pas loin.
Et en tout cas, tu l'as rappelé, et même Marc le disait, il faut voilà un match référence, et c'est peut-être ce soir, 20h45, Marseille-Monaco, à suivre en direct en intégralité sur RMC, prise d'antenne à partir de 20h. Merci Karim d'avoir composé le 32-16, merci d'avoir été avec nous. Il y a Tom qui nous dit via le Direct Studio, penser que l'OM ne performe pas à domicile parce qu'ils sont inhibés par le Vélodrome, c'est comme dire quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, le problème est uniquement tactique, uniquement, c'est ce que nous disait d'ailleurs Pascal, dire le contraire c'est se fourvoyer, ça arrange peut-être le staff et en particulier l'entraîneur de dire que le problème c'est peut-être les supporters ou le Vélodrome. Allez, 9h40, on se retrouve dans quelques instants pour le zapping des GG, on parlera notamment du Paris Saint-Germain ou encore du Marathon de Valence. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Vous êtes tous d'accord avec moi en fait.
Les grandes gueules du sport.
Mais oui, mais t'es notre maître, t'es un peu notre gourou.
Jean-Christophe Drouet.
Et voilà, chose promise, chose due. On va envoyer la bande à Pascal qui est très heureux. On est toujours d'accord avec notre Pascal évidemment. Pascal Duprat avec nous. Marc Madiot, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux. À partir de 10h, dossier extrêmement intéressant dans les grandes gueules du sport. Nous allons parler de l'inhalation du monoxyde de carbone par certains coureurs cyclistes. Le cyclisme court-il un grand danger ? Évidemment, nous profiterons des lumières de Marc Madiot et de Jérôme Pinault pour nous expliquer ce danger qui est revenu dans la lumière et dans la presse cette semaine après une demande de l'UCI. Ça, ce sera à partir de 10h. 10h45, ne manquez pas les GG contre-attaque. Mais GG, comme d'habitude, vous proposez un débat soumis au vote. Et le grand vainqueur viendra exposer sa problématique. Vous avez quelques secondes pour vendre votre débat aux auditeurs. Christophe, tu veux nous parler de quoi à 10h40?
Je vais vous parler d'un petit village gaulois qui résiste, qui fait de la résistance, qui s'est fait massacrer par les légions romaines et les légions du top 14 et qui hier a réussi à renverser le grand César de La Rochelle. Et oui, Van qui est allé battre La Rochelle, c'est assez rare. D'habitude en rugby, c'est très rare qu'une petite équipe réussisse à battre une grosse équipe, surtout à l'extérieur. Eh bien, Van l'a fait. Et je vais vous expliquer pourquoi cette équipe
c'est
de Rennes est incroyable.
Première dans l'histoire. Hein.
Première dans l'histoire, premier déplacement à des Flandres, première victoire à des Flandres. Là où le Leinster, le Stade Toulousain, tous les plus grands sont tombés, il a fallu des années avant qu'ils réussissent à gagner. Et ben Vannes y est arrivé du premier coup.
Dans le premier derby de l'Atlantique du top 14. Ouais.
Parce qu'on a première victoire à l'extérieur.
On l'a plus en football, calme-toi le Nantais, tout va bien se passer. On va parler de Nantes dans quelques instants au Parc des Princes, tu vas voir. En tout cas, Van, c'est très intéressant. En plus, le coach avait fait une sortie polémique la semaine dernière. Et il arrive à s'imposer à La Rochelle. Donc bravo évidemment à cette équipe de Van. Marc Madiot, tu nous proposes quoi ?
Antoine Camboire.
C'est
un entraîneur que j'aime bien. Il est parti du PSG, il a refait sa vie à Nantes. Il a été évincé de Nantes, il est revenu à Nantes et j'ai peur que ça se passe jamais 203.
Ok, pour l'instant, en tout cas, il a au moins sauvé sa tête avec ce déplacement au Parc des Princes.
Ça fait plaisir.
Tu veux nous parler, évidemment, d'Antoine Camboire. Si vous voulez voter pour Marc, n'hésitez pas. Pascal, tu veux nous parler de quoi ?
Oui, et donc moi j'aimerais interpeller mes amis GG, parce qu'hier, à l'issue du sprint en F1 au Qatar, vous avez vu comme moi que Norris a laissé la victoire à son coéquipier Piastri. Et ça m'a interpellé, je vous pose la question suivante. Selon vous, est-ce un beau geste ou un geste contraire à l'esprit, à l'essence même du sport ?
Ok, un beau geste ou un geste contraire à l'esprit du sport, c'est la proposition de Pascal Duprat. Allez voter évidemment sur le compte X des grandes gueules du sport. Jérôme Pinault, c'est quoi ta proposition ?
Moi j'ai envie de vous parler des supporters des clubs de football, interdiction de déplacement, des horaires abracadabrantes, un prix pour regarder leur équipe favorite hors de prix, impossible, personne ne prend en compte leurs considérations. Et moi j'ai envie de vous demander, est-ce que les supporters de ces clubs sont-ils laissés de côté ? Est-ce qu'on ne prend pas assez en compte ce qu'ils souhaitent ? Et ça calmerait peut-être certains d'entre eux.
Ok, c'est un débat philosophique que tu nous proposes en tout cas, mon cher Jérôme Pinault. Allez voter, c'est dans une heure. Les GG contre ça, attaque.
Écoute, je parle de football, parce que dès que je parle de vélo, je suis dernier. J'ai mis un peu de football, tu vois, pour voir un peu.
Moi, je voudrais tellement gagner, mais je crains que Christophe nous dame le pion, parce qu'il est beau.
Avec Van ? Ok, bon.
Faut dire que c'est quand même.
Tranquillement.
Pourtant, j'y crois, je voudrais vous écouter.
C'est populaire aussi, tu sais, le fan club cyclistes est large. C'est un peu l'Olympique de Marseille des journalistes, il y en a partout dans
France. Ouais, surtout, il y a ses potes qui votent. Là, je vais te dire, il envoie des textos en ce moment.
Il y a une joli portrait de Jérôme Pinault avec des cheveux d'ailleurs. Bravo, Mika, okay. T'es très fort.
Allez voter.
Mais j'aurais préféré plus la coupe mulet. La coupe mulet.
J'ai eu.
Parce que Boisdel, c'est la coupe mulet.
J'ai eu. Je t'ai montré des photos, j'ai eu ça.
Oh non, mais ça, tu devais emballer grave.
Allez, on s'en fout pas tout de suite.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est le PSG qui ne répond plus, même en Ligue 1. On s'en fout pas. Jérôme Pinault.
On s'en fout pas, c'était face à Nantes.
Ok. Christophe Cessieux.
J'ai pas vu le match, donc je m'en fous.
Ou tu t'en fous, ok. Marc Madio.
On s'en fout pas.
Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Ok, alors après sa déception face au Bayern Munich cette semaine, hein, le Paris Saint-Germain ne s'est pas rassuré face à Nantes et c'est une surprise, un match nul, un partout. Pourtant, les Parisiens ont été largement dominateurs. Rendez-vous compte, j'ai une stat à vous donner, un chiffre. Le PSG a réalisé un record de possession de balles dans un match de Ligue 1, 84,1%. En conférence de presse, Luis Enrique ne comprend pas l'inefficacité de son équipe.
C'est inexplicable. Dans ma carrière d'entraîneur, c'est la première fois qu'on a les meilleurs chiffres collectivement en termes d'occasions créées et d'occasions concédées. C'est incompréhensible. Je ne peux pas l'expliquer. Mon équipe a de la qualité, mais on doit changer cette dynamique. Ça finira par changer, mais pour l'instant, c'est inexplicable. On a eu 5 occasions franches et on a tout raté.
Ok, il va nous la faire à chaque fois, le côté c'est inexplicable,
terrible.
Tous nos chiffres sont incroyables, pourquoi on ne gagne pas.
Bon, il nous l'a fait en français cette fois-ci, hein, il a dit...
On ne peut pas comprendre.
Oui, hein, c'est ce qu'il avait dit, oui.
Ce qui est surtout inexplicable, c'est moi qui me fait réagir, c'est qu'il a quand même pris un but face à Nantes. Une équipe nantaise que je suis de très près et qui a, par miracle, mais quelques buts, mais c'est vraiment un miracle.
Sa ligne d'attaque est bonne.
Elle est très inoffensive.
Oui, mais sa ligne d'attaque est bonne. Les joueurs sont bons. Simon, Ablin, Mostafa Mohamed, il y a des joueurs.
Mais il ne marque pas de but.
Oui, c'est vrai, d'accord. Mais il y a des joueurs.
Et lui, il t'explique qu'il a eu des gros chiffres de possession, heureusement, face à une équipe qui a peur de descendre et qui est en pleine crise. Alors, il est Paris Saint-Germain, heureusement qu'il a 85% de possession. Il ne marque pas de but et il en prend un. Donc, il n'y a pas qu'un problème d'attaque, il y a aussi un problème défensif.
Marc ?
Là, moi, je vais défendre Luis Enrique.
Voilà. Ah, tu veux défendre Antoine Camboire, tu veux défendre.
Tu veux devenir entraîneur de foot ou quoi?
Tu défends tout le monde, toi, quoi.
Je défends pas tout le monde, mais.
Non, ça se saurait s'il défendait tout le monde.
Vas-y, Marc.
Je défends Luis Enrique parce que justement, beaucoup de gens sont en opposition avec lui.
Okay.
Ils ne le comprennent pas.
C'est une position de principe ou.
Explique-nous le Luis Enrique.
Je pense que Luis Enrique. Il faut lui laisser le temps d'aller au bout de son projet. C'est un projet de longue haleine, c'est un projet difficile, mais s'il réussit à mettre en place ce qu'il souhaite avec ce groupe, avec des jeunes joueurs, et qu'il arrive un peu à le renforcer là où il y en aura besoin dans les prochaines semaines, je pense qu'il peut réussir là où ses prédécesseurs ont échoué à Paris. Je pense qu'il y a eu un changement de comportement et d'approche au sein du PSG par rapport aux objectifs et ils sont sur la bonne route.
Ok, le projet, t'y crois, donc voilà. Tu préfères lui laisser le temps. Pascal, ton regard là, sur ce nul.
Alors, mon regard, c'est, j'ai l'impression que oui, je comprends là où il veut en venir, un jeu de possession bien léché, plus propre que propre. Le problème, c'est que pour marquer des buts, quelquefois, il faut les marquer du pointu, il faut s'arracher. Et quand on est en position de centre, il faut centrer. Et le problème, c'est qu'il cherche toujours la position préférentielle, le Paris Saint-Germain. Et que hier, ils l'ont cherché un long moment. Et ça manque un peu de comment dire, d'insalubrité, de un côté un peu, je sais pas,
il faut marquer.
C'est vrai qu'il maîtrise, on peut dire ce qu'on veut, même si Jérôme a raison, un des rares contre Nantais, ils prennent un but. Mais cela dit, il faudrait que dans la surface de réparation, ils soient un peu plus tueurs.
Bien sûr.
Ils sont, là aussi, moi, il me semble pas trop loin de la vérité non plus. Hein.
Ouais, voilà. Pascal, t'es un peu le gourou du jeu sale, toi, en fait. Hein.
Moi ça m'emmerde de voir que tu sais c'est très difficile à déstabiliser, y compris sur la largeur, une équipe quand t'arrives en position de centre, que t'as du monde dans la surface, de temps en temps centre quoi, les supporters ils sont venus pour vibrer quoi, même si tu te coupes dans ton centre. Or il y a jamais de centre à l'aveugle à Paris Saint-Germain, faut toujours donner le ballon de manière à ce que ça soit comment voulu, tu vois. Quelquefois le foot, moi ça me fait penser à l'Espagne quand ils coachaient, ou c'était un championnat d'Europe je crois, ou la Coupe du Monde. monde, Luis Enrique.
Contre le Maroc.
On s'est emmerdé ferme. On s'est emmerdé ferme. Tu peux pas t'imaginer. T'es obligé de t'endormir devant la télé. Donc quelquefois, ça mérite un tout petit peu plus de, un peu plus dégueulasse, quoi. Voilà. Okay. C'est ça aussi le foot.
Merci, mon Pascal. Allez, deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est le sport de retour à Valence un mois après la catastrophe. On s'en fout, on s'en fout pas. Jérôme Pinault.
On peut pas s'en foutre.
Christophe Cessieux.
Non, on peut pas s'en foutre, mais que dire?
On s'en fout pas, mais bravo.
Bravo, ok. Et Pascal Duprat?
Bah, je suis sur la même ligne que vous. Quoi dire? Mais bravo.
Bah, justement, nous allons avoir un reportage à Valence un mois après les inondations qui l'ont durement frappé. Valence, eh bien, sera le théâtre, là, aujourd'hui, hein, depuis ce matin, de l'un des marathons les plus rapides de l'année. Il est assez connu, ce marathon. Clément Brossard est notre envoyé spécial à Valence. Salut Clément. Quelle est l'atmosphère autour de ce marathon?
Salut JC, salut les GG, ce que vous entendez derrière moi, ce sont les chants des manifestations. Hier soir, place de l'Hôtel de Ville, plusieurs milliers de personnes en colère contre des politiques qui n'ont pas su protéger le peuple selon les locaux. Alors, dans ce contexte, certains comme José auraient préféré ne pas voir le marathon se maintenir ce week-end.
Pour moi, le marathon à Valence, c'est très important, mais cette année, vraiment par respect pour les familles des victimes, pour ceux qui n'ont plus de quoi manger, ni de lieu où dormir, je ne l'aurais pas maintenu.
Mais pour la majorité, eh bien ce marathon, il est bien vu. C'est ce que pense Jordi, qui, lui, a beaucoup perdu dans les inondations.
Je n'ai plus de maison, mes parents non plus, on a perdu nos voitures. Mais le maintien du marathon, je le vois comme une bonne chose. C'est très important pour l'économie de la ville. C'est l'occasion de se relever avec un événement mondial. On va le suivre, on va le regarder, même s'il restera comme le marathon le plus triste de ces dernières années.
Alors évidemment, le maintien de cette course a été discuté, mais pour Paco Borao, c'est le patron de ce marathon, c'est avant tout une main tendue vers une reconstruction.
Le marathon est un phénomène qui, à Valence, lui fait énormément du bien. Pour un investissement l'année dernière de 7 millions d'euros, on a eu un retour de 33. C'est pas le moment de fêter, mais c'est le moment de mettre en route tout ce qui fait que l'économie de cette ville fonctionne.
3 euros par finisher iront à des associations pour restaurer des lieux sportifs. Je rappelle qu'ils sont 35 000 coureurs. Et en plus de cela, Paco Borao a mis en place ce qu'il appelle l'enveloppe zéro.
Tous les coureurs peuvent apporter ce qu'ils peuvent apporter. On est déjà à plus de 100 000 euros récoltés. Et ça aura des quantités qui pallieront un peu le dommage qui s'est causé.
Alors sur la ligne de départ ce matin, il y avait du beau monde, comme l'Éthiopien Sisaï Lema, recordman de cette épreuve reconnue comme l'une des plus rapides au monde. Le chrono, le Français Johan Durand va évidemment le viser, mais il aura aussi en tête le contexte de cette course si particulière.
Moi j'avais vraiment à cœur de venir aujourd'hui pour montrer aux Valenciens que on est avec eux, on est de tout cœur avec eux, on avait vraiment envie que l'événement se fasse pour que la ville se reconstruise. Ça va être vraiment un marathon assez émouvant, je pense.
Et puis je terminerai les GG sur une dame au grand cœur. Elle s'appelle Elisabeth, c'est la fondatrice de la structure Sportif à bord. Elle a organisé tout le week-end de centaines de coureurs venus ici à Valence. Elisabeth a de son côté mis en place...
C'est une cagnotte. Je demandais à mes clients de mettre un petit billet dedans pour aider les sinistrés. Lundi matin, j'irai déposer cette boîte à une association de sinistrés au centre de Valence. Il y a des beaux billets dedans, je peux vous le dire.
Et c'est pas tout, parce qu'elle a aussi donné à chacun de ses coureurs un nœud noir à mettre sur les t-shirts en hommage aux victimes. Le marathon s'était lancé pour les premiers vers 8h15 ce matin, après une intense minute de silence. On est loin du départ en fanfare, comme on peut souvent l'observer à l'heure des premières foulées d'un marathon.
Merci beaucoup Clément Brossard. The show must go on. C'était important, Jérôme, là, de reprendre, que la vie sportive reprenne aussi ses droits.
Oui, que la vie tout court reprenne ses droits. C'est dramatique ce qui s'est passé là-bas. Et c'est une catastrophe naturelle. Nous devons faire en sorte que cela n'arrive plus et être encore plus vigilants. Mais de toute façon, le sport fait partie de la société. C'est un divertissement. Il faut que ça continue. Autant que faire se peut, maintenir les événements sportifs et culturels, c'est super important dans la reconstruction. Il y a la reconstruction des bâtiments, la reconstruction du paysage, mais aussi psychologique des habitants, et les divertir, parce qu'on ne fait que du divertissement, ça compte aussi. Donc oui, la vie doit continuer, et tant mieux. On a vu un bel hommage l'autre jour à Mestalla, on voit le marathon, on a su cette semaine, et Marc sera très heureux de l'apprendre aussi, que le Tour de Valence cycliste maintient son organisation, va modifier son parcours, mais maintiendra son organisation. Il faut savoir que dans cette région-là, en plus d'Espagne, c'est énormément de subventions publiques. Le Tour de Valence, sans la région de Valence, qui est une région très riche, ne se tiendrait pas. Donc la région, d'un côté, essaye d'aider les sinistrés, certains sont en colère contre eux, et de l'autre, continue à financer des projets sportifs. Mais tout ça fait partie de la relance de cette région.
Et la Groupama FDJ va aller s'entraîner non loin de Valence, là, la semaine prochaine.
Dans une semaine, on sera pas loin de Valence, on sera à Calpé, et il y a une vraie relance économique. C'est pas le moment de quitter les lieux, et je trouve que le marathon va ramener de l'argent à la ville de Valence, et c'est bien, et c'est tant mieux. Il y a un engagement, il n'y a pas de renoncement.
Voilà, et c'était important d'en parler dans les grandes gueules du sport ce matin. On se retrouve dans quelques instants et on vous attend évidemment, Marc Madiot, Jérôme Pinault notamment, mais aussi Christophe Cessieux et Pascal Duprat, sur ce dossier, le monoxyde de carbone dans le cyclisme. Le cyclisme court-il un grand danger ? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.